Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le ministre de l'Intérieur a-t-il sous-estimé la réaction des psychiatres en proposant à ces derniers d'aider les autorités à parer la menace terroriste individuelle? Gérard Collomb s'est mis à dos une partie de la profession. La compétence des psychiatres n'est pas d'être des fonctionnaires de police, écrit notamment l'Union syndicale de la psychiatrie. En revanche, une réelle coopération existe avec les professions de justice. Le rôle des experts psychiatres est déterminant dans les procès d'assises. Le sort des prévenus dépend en partie de leurs conclusions, mais en partie seulement, en jugé par le constat dressé par l'Observatoire international des prisons. Selon l'OIP, plus de 20% des personnes incarcérées en France sont atteintes de troubles psychotiques. Un constat corroboré par un rapport rendu cet été par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à propos d'un centre pénitentiaire dans le département de l'Aisne. Rapport selon lequel une large majorité des détenus relevaient de l'hôpital psychiatrique. Alors est-ce à dire que la justice envoie en détention des personnes qui devraient être hospitalisées? La prison est-elle un asile de fous? C'est la question que nous allons poser à trois invités ce soir. Pascale Louet-Villaume, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate, secrétaire nationale à l'USM, l'Union syndicale des magistrats, la principale organisation de cette profession, conseillère à la Cour d'appel de Versailles. Vous avez commencé votre carrière comme juge d'application des peines. Pour discuter avec vous, Sébastien Saïta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Vous êtes sociologue et vous avez mené des enquêtes, notamment dans des unités psychiatriques en prison. Et puis notre troisième invité est à Nice. Il est en duplex des studios de France Bleu. Il s'agit de Cyril Canetti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre. Vous avez exercé pendant de longues années en prison à Fresnes, à Fleury-Mérogis, à la prison de la Santé. En 2014, vous avez rejoint l'équipe du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous faisiez partie de cette équipe qui allait dans la prison de Château-Thierry. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et vous êtes par ailleurs chargé d'une consultation pour les sortants de prison à Paris. J'évoquais d'un mot, mais ce ne sera pas le thème de l'émission ce soir, mais quand même cette idée émise par le ministre de l'Intérieur, Cyril Canetti, de faire participer, disons, les psychiatres au travail de détection dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a choqué?
Bien évidemment, puisque les missions fondamentales des soignants et des psychiatres, c'est d'être soignants, c'est d'être dans la confiance avec leurs patients. Et donc, il est bien évident qu'il ne s'agit pas de collaborer avec les forces de l'ordre ou avec la justice, en dehors des expertises que vous évoquiez tout à l'heure. Notre fonction première et notre seule fonction est de soigner.
Alors, on va aller justement sur la question de ces expertises et de cette collaboration avec la justice. Mais pour véritablement démarrer la discussion entre vous trois, je voudrais donc revenir, Sébastien Saïta, avec vous, avec ce chiffre qui est celui qui est avancé par donc l'Observatoire international des prisons. Plus de 20%, je vais y arriver, des personnes incarcérées en France sont atteintes de troubles psychotiques. Et c'est quoi? C'est une évaluation? Comment est-ce que vous arrivez à ce chiffre-là?
Ce chiffre, en fait, il est issu d'une enquête qui a été une enquête épidémiologique qui a été réalisée sur environ 800 détenus dans 23 établissements pénitentiaires, qui s'est déroulée donc de 2001 à 2003, grosso modo. Les résultats ont été publiés en 2004. Donc c'est la seule enquête en France qui aujourd'hui permet de chiffrer comme ça sur une population importante. Depuis, il n'y a rien eu, donc on ne sait pas s'il y a eu une augmentation, etc. Mais bon, on y reviendra peut-être. Il y a des indicateurs qui permettent d'affirmer qu'il y a peut-être une augmentation qui a eu lieu depuis 2004. Et cette enquête, en fait, effectivement, elle a révélé des chiffres très élevés. C'est dans cette enquête qu'on peut trouver le chiffre de 23% de personnes atteintes de troubles psychotiques. Un autre chiffre qu'on pouvait retrouver dans cette enquête, c'est que 8 détenus sur 10 hommes et 7 détenus sur 10 femmes donc étaient atteints d'un trouble psychiatrique. Donc 80 et 70% de la population, c'est énorme. Et pour rentrer dans le détail sans trop vous assommer, donc les troubles anxieux, c'était environ 50% contre 20% en population générale. Les troubles thymiques, c'est-à-dire dépression, etc. Les troubles de l'humeur, c'était 50% contre 13% aussi en population générale. Et effectivement, les troubles psychotiques, 23%, alors que dans la population générale, on est plutôt aux alentours de 3%.
Alors, donc, il faut bien préciser quelque chose, Sébastien Saïta, c'est-à-dire que les troubles psychotiques tels qu'ils sont identifiés en prison ne signifient pas forcément que les personnes étaient atteintes de ces troubles avant d'entrer en prison. On va aller justement dans la deuxième partie de la discussion sur la question de savoir finalement ce que fait la prison, ce que crée la prison de ce point de vue. Mais je voudrais d'abord qu'on reste du côté de la justice, du moment où on décide d'envoyer quelqu'un en prison plutôt que de l'envoyer se faire soigner, ou inversement, Pascal Loué-Villaume. Est-ce que vous avez, vous, constaté au fil des années une évolution par rapport justement à ce choix qui peut être celui d'un juge ou d'un jury d'assises, la prison ou les soins?
Alors, on peut imaginer qu'il y ait des soins pour une personne qui a été condamnée, c'est-à-dire le fait d'avoir des problèmes de santé de nature psychiatrique, ça ne justifie pas automatiquement, ça n'explique pas forcément qu'il va y avoir ce qu'on appelle une irresponsabilité pénale. Et donc, il peut y avoir effectivement des personnes qui seront jugées et qui seront condamnées à une peine, même si elles sont atteintes de troubles mentaux. Les seuls cas de figure où il ne peut pas y avoir de condamnation à une peine, c'est quand la personne, effectivement, n'a plus de discernement. Dans ces cas-là, effectivement, le trouble mental est tel que la justice ne peut pas rendre une décision de condamnation. Et à ce moment-là, la personne sera orientée sur le secteur de soins hospitaliers, c'est tout. Mais sinon, effectivement, le fait d'avoir une altération de ses facultés mentales, ça n'excuse pas et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peine. Mais il y aura une peine qui sera atténuée.
Et est-ce que vous avez le sentiment que cette non-excuse, disons, elle est de plus en plus présente, ou comment est-ce que ça évolue dans le cadre des décisions judiciaires? Est-ce que, par exemple, les experts psychiatres ont peut-être tendance à être de moins en moins, ou de plus en plus sévères? Je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens ça...
Alors en fait, c'est vrai que les juges, ils ne peuvent pas travailler sans les experts dans ces domaines-là. Vous imaginez bien que la décision des juges concernant les peines, elle va être essentielle. Effectivement basé sur ce que les rapports des experts psychiatres et psychologues auront dit. Il arrive souvent d'ailleurs que parfois dans les dossiers, plusieurs expertises soient ordonnées pour avoir justement une appréciation très fine de la situation, notamment lorsqu'on effectivement on sait qu'il y a effectivement des troubles psychiatriques. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une augmentation des condamnations aux peines d'emprisonnement à l'égard de personnes atteintes de troubles mentaux. Je tendrais à dire que oui, quand même, compte tenu de la réalité de ce qu'on constate en prison. Ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, M. Saïta, il y a quand même cette étude qui date de 2004. Récemment, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a parlé aussi d'un chiffre qui va jusqu'à 30% de personnes atteintes de troubles graves, effectivement, de nature psychiatrique en prison. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement une tendance, on peut penser, à l'augmentation, effectivement, des personnes détenues et atteintes de troubles mentaux.
Alors, j'ai justement demandé et à Sébastien Saïta et à Cyril Canetti s'ils partagent ce constat. On condamne davantage aujourd'hui qu'on ne le faisait peut-être il y a quelques années, Cyril Canetti, des personnes atteintes de troubles mentaux plutôt que de les envoyer se faire soigner?
Écoutez, je pense que le problème est complexe, effectivement. Il y a ce que vient de dire Madame Loué-Villaume, à savoir que pour être déresponsabilisé pénalement pour des raisons psychiatriques, il faut avoir été au moment des faits dans un état de folie. Je vais être trivial. Mais la question qui est posée souvent aux experts, c'est aussi celle de l'accessibilité à la sanction pénale. Or, si des gens rentrent en prison éventuellement en bon état de santé, très souvent on voit leur état se dégrader, et notamment des peines qui vieillissent dans des établissements qui reçoivent des longues peines, des très longues peines, et on voit des gens qui ont développé des troubles mentaux importants pour lesquels la sanction n'a plus aucun sens puisqu'ils ne sont plus accessibles à la sanction pénale tellement leur état psychiatrique s'est dégradé. Ça, c'est une chose, et rapidement, je crois que la provenance des malades mentaux en prison vient d'une part, effectivement, peut-être d'une tendance à davantage responsabiliser. Et pour ça, j'aurais tendance à dire que le fait de développer les soins en prison a fait le nid de la maladie mentale en prison, puisqu'il y a développé les soins, finalement, on a laissé la place à l'idée que les malades mentaux pouvaient y trouver des soins de qualité, premièrement. Et d'autre part, il y a, je crois, une défaillance de la prise en charge des malades mentaux à l'extérieur, une paupérisation de cette population qui, du coup, est amenée à s'exclure de la société, à commettre des actes de petite délinquance. Et ces gens-là, qui ne sont pas irresponsables pénalement sur le plan psychiatrique, se retrouvent en prison.
Sébastien Saïta.
Alors oui, bon, sur la baisse des irresponsabilités, on a des chiffres. On a aussi des travaux qui ont été réalisés, notamment un ouvrage récent qui est sorti sur le sujet. Ça s'appelle « Sous l'emprise de la folie ». C'est réalisé donc par, il a été écrit par Caroline Proté, donc qui est sociologue, qui s'appuie sur un travail de thèse et qui donc cite les chiffres de la justice, qui sont aussi cités par ailleurs. Et ce qu'on a, c'est entre 1984 et 2010, une division par 5 environ des décisions d'irresponsabilité pour raison psychiatrique. Donc la baisse, elle est claire, elle est établie. On peut la lire dans les statistiques du ministère de la Justice. Et en gros, on est passé de 500 décisions d'irresponsabilité en 1988 à 150 en 2008.
Et elle est analysée comment, cette baisse ? C'est quoi ? C'est pour répondre à une demande sociale, par exemple, de davantage de sévérité ? C'est quoi ? Il y a des consignes qui sont données ?
Caroline Proté, elle s'est penchée sur le travail des experts, sur des expertises, donc un corpus de 270 expertises psychiatriques, des entretiens aussi avec des experts et aussi des articles rédigés par des experts psychiatres dans des revues. Et ce qu'elle constate, c'est ce qu'elle appelle une restriction très nette du champ de l'irresponsabilité pour raison psychiatrique. Et les raisons, bon, elles sont nombreuses, elles sont difficiles à saisir, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a des experts psychiatres, par exemple, qui pensent que la peine et la confrontation à la loi peuvent être thérapeutiques. Aussi parce qu'aujourd'hui, il faut un coupable, il faut que justice soit faite. Aussi parce qu'on pense qu'une infraction qui n'est pas punie ne permet pas à la victime de faire son deuil. On peut complètement le remettre en question. Et parce qu'on pense aussi que la personne va être soignée en prison, comme le disait M. Canetti, les effets pervers, en prison, elle pourra être soignée, donc on a moins de scrupules à l'y envoyer. Voilà, en gros, et puis aussi, je voudrais juste mentionner, c'est aussi des acteurs qui travaillent un petit peu sous pression, que ce soit les experts, les magistrats, une grosse pression pèse sur eux, ils peuvent faire la une des médias si jamais ils ont pris une décision qui après engage une récidive, etc. Donc là aussi, on a un contexte qui n'aide pas les acteurs et les professionnels à prendre des décisions sereines, et à raisonner sereinement sur des cas.
Pascal Ovillum, il y a tout un tas de raisons qui ont été évoquées. Est-ce qu'on pourrait aussi y ajouter une raison peut-être plus politique, ou en tout cas des consignes qui peuvent venir de l'administration judiciaire pour exercer davantage de sévérité, ou en tout cas est-ce qu'on peut aussi peut-être suivre cette évolution en fonction des différentes lois pénales qui peuvent être prises ?
Alors je pense que les juges sont indépendants, donc ils n'ont pas de consignes à recevoir, mais ils appliquent la loi.
Et donc,
c'est le législateur qui prend justement sur ce sujet-là les décisions. Et comme vous l'avez suggéré, effectivement, il faut se rappeler des affaires particulièrement médiatiques. Je pense par exemple à ce qui s'était passé, ce drame à l'hôpital psychiatrique de Pau, où il y avait effectivement eu une affaire concernant deux infirmières décapitées. À la suite de cela, une loi effectivement avait été votée qui prévoyait que maintenant, dans certains cas même d'irresponsabilité, c'est la chambre de l'instruction, c'est-à-dire c'est une juridiction qui va effectivement constater que la personne, elle, est irresponsable pénalement, mais qui va quand même ordonner son hospitalisation en psychiatrie. Donc tout ça pour dire que là, on est en train on a un choix politique qui est fait, qui consiste à dire... C'est un choix très pernicieux. On a affaire à des malades mentaux, encore une fois, qui ont un discernement totalement aboli. Mais on va quand même demander au juge de continuer de s'y intéresser. Alors que ça, ce n'est pas du domaine normalement du juge. Ce n'est pas du domaine de la loi pénale. Et je voulais également rajouter que, la tendance actuellement, c'est effectivement plutôt d'avoir des affaires dans lesquelles, effectivement, on envoie des personnes qui ont des troubles mentaux en prison. Or, la prison, ce n'est pas un lieu de soins. Ça n'est pas ni actuellement, ni à mon avis, jamais un lieu de soins.
Parce que la prison, c'est aussi considéré par le grand public, disons, dans lequel je m'inclus totalement, évidemment, Cyril Canetti, comme un lieu où on va protéger la société d'individus potentiellement dangereux. Or, s'il y a des individus dont on se dit... sans doute à tort, mais qui sont les plus dangereux, ce sont justement ceux qui souffrent de troubles mentaux. Est-ce que ça peut aussi expliquer le fait qu'il y ait, comme je disais tout à l'heure, peut-être une demande sociale, une pression sociale pour que ces individus-là soient enfermés et donc soient inoffensifs ?
Que la société veuille se protéger des personnes dangereuses, ça me paraît tout à fait naturel. Ensuite, qu'on fasse l'amalgame entre maladie mentale et dangerosité, là, par contre, ça me paraît pas du tout normal. Avant tout, les malades mentaux sont des gens qui souffrent.
Mais est-ce que vous avez le sentiment, Cyril Canetti, que cet amalgame, justement, il est fait ?
Absolument, il est fait. Il est fait et un certain nombre de discours politiques ont été dans ce sens. Or, les malades mentaux sont bien plus souvent victimes qu'auteurs de faits graves. Et en plus, la France est équipée d'établissements psychiatriques suffisamment spécialisés pour prendre en charge des personnes qui ont des troubles mentaux qui sont graves, qui sont pas une exception, mais qui sont une petite partie des malades mentaux et qui a la possibilité de les prendre en charge sans qu'ils soient dans un milieu carcéral. C'est-à-dire qu'on confie la surveillance et la prise en charge de ces personnes à du personnel médical habilité à les prendre en charge de façon efficace et non pas à des surveillants pénitentiaires qui, la plupart du temps, ils le dénoncent et ils ont raison, sont complètement désemparés face à cette population.
Et de ce point de vue-là, vous diriez qu'il y a suffisamment d'établissements, suffisamment de structures qui seraient capables de prendre en charge ces pathologies sans justement être obligé d'envoyer ces personnes en prison quand leur état ne le justifie pas.
Absolument. Et puis, je crois qu'il faut aussi, bien penser que les malades mentaux qui sont incarcérés, ceux qui sont dangereux vraiment sur le plan psychiatrique, représentent une toute petite minorité. La majorité des gens que j'ai pu prendre en charge au cours de ces presque 20 ans que j'ai exercé en milieu pénitentiaire sont des gens qui sont des petits délinquants, qui n'ont pas une dangerosité supérieure à la population moyenne, mais qui sont malades mentaux. Donc, l'idée qu'on les incarcérerait pour protéger la société est complètement fausse. Elle est mise en avant.
Sébastien Saïta.
Oui, je voulais juste aussi replacer un petit peu cette évolution dans peut-être une évolution un peu plus longue, parce qu'en fait, on doit aussi mettre en rapport cette présence des personnes atteintes de troubles psychiques en prison avec aussi une diminution des lits en psychiatrie. Hein. Et c'est vrai que là, on a des courbes en fait qui se croisent. En fait, on a depuis les années 70 des lits qui ont diminué, qui ont été diminués par 2,4. Et par ailleurs, on a un taux d'incarcération donc qui a augmenté et qui a été multiplié par 3, lui. Donc on a vraiment un croisement des courbes et on a là sujet, on parle de vases communicants, c'est un petit peu l'hypothèse des vases communicants, comme quoi des personnes qui avant auraient été accueillies à l'hôpital se retrouvent maintenant en prison. Donc ça c'est quand on regarde un petit peu sur le temps long, des évolutions un peu plus longues et là clairement on fait le constat d'une pénalisation des personnes atteintes de troubles psychiques qui auparavant ont été envoyées à l'hôpital et qui aujourd'hui sont envoyées en prison. Donc voilà, c'est important de dire aussi ça sur le temps long et de croiser les deux en fait, les deux évolutions.
Alors, s'agissant de la prise en compte par la justice de l'état psychique des prévenus pour savoir donc s'il faut les hospitaliser ou s'il faut les enfermer, il faut préciser, peut-être Pascal Louis-Villiam, que depuis 2014, depuis la loi Taubira sur l'individualisation des peines, est prévue une disposition qui permet quand même de prendre en compte l'absence ou en tout cas l'altération du discernement au moment des faits dans le prononcé de la peine, en tout cas dans l'ampleur de la peine. C'est-à-dire que on peut punir quelqu'un, l'enfermer, mais moins longtemps que quelqu'un qui n'aurait pas eu cette altération de son discernement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire maintenant, là, il est prévu que la peine encourue est réduite effectivement d'un tiers quand la personne a ce qu'on appelle une altération de son discernement due à des problèmes de nature mentale. Donc la peine encourue est réduite, donc forcément la peine prononcée sera évidemment aussi, il sera tenu compte de cette réduction nécessairement.
Ça c'est ce qui est dans la loi.
C'est ce qui est prévu dans la loi.
C'est ce qui est prévu, est-ce que c'est ce qui est appliqué? C'est peut-être un petit peu compliqué de le savoir.
Je ne suis pas certaine. La loi est récente, la loi est assez récente. Je ne suis pas certaine que les choses soient aussi évidentes, effectivement, dans les faits. Parce que, bon, encore une fois, la peine encourue, c'est le maximum. La peine prononcée, elle tient compte de plusieurs facteurs. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, justement, cette loi, elle prévoit que le juge doit s'assurer, enfin, que la juridiction doit s'assurer que la peine qu'il va prononcer va permettre au condamné de faire l'objet de soins adapté à son état. Alors ça, je dirais que c'est un vœu pieux et que dans la réalité, ça ne se passe absolument pas comme ça parce que les juges n'ont pas absolument pas les moyens d'aller d'abord même ordonner que effectivement la peine, par exemple, de prison qui va être prononcée va se dérouler dans tel établissement dans lequel il y aura un service psychiatrique spécialisé. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité.
France Culture. Du grain à moudre.
Hervé Gardette.
La prison est-elle un asile de fous? C'est la discussion que nous menons ce soir en compagnie de Pascal Louis-Villiam, qui est secrétaire national à l'Union syndicale des magistrats, Sébastien Saïta, porte-parole de l'Observatoire international des prisons, et Cyril Canetti, qui est psychiatre, qui fait partie Je crois que vous en faites toujours partie de l'équipe de la contrôleur général des lieux de privation de liberté. Puis vous avez une consultation pour sortant de prison à Paris.
Je ne fais plus partie vous de ne faites l'équipe plus partie. Du contrôleur depuis quelques mois.
J'ai eu un petit doute, voilà. C'est pour ça que je vous posais la question. Je rebondis sur ce que venait de nous dire Pascal Loué-Villaume, sur le fait que à la fois la justice a, disons, pour consigne à travers cette loi de s'assurer que les détenus qui en auraient besoin puissent avoir un suivi médical sans avoir la possibilité de s'assurer que ce suivi-là sera bien administré, parce que ça va dépendre de l'établissement où ces personnes seront incarcérées. Ça veut dire que toutes les prisons françaises aujourd'hui ne disposent pas d'unités de soins psychiatriques.
C'est alors toutes les prisons françaises ont logiquement des soins psychiatriques. Évidemment, elles n'ont pas toutes la même, il n'y a pas toutes les mêmes effectifs, les mêmes qualités. Mais je crois que c'est pas exactement comme ça qu'il faut poser la question. Il faut savoir que les consultations sont déjà complètement saturées par les demandes de soins faites par des personnes qui veulent avoir un aménagement de peine qui est donné par le magistrat d'application des peines, c'est-à-dire une sortie en conditionnel, en semi-liberté ou d'autres aménagements de peine. Et les magistrats demandent régulièrement à ce qu'il y ait un suivi psychiatrique pour accorder tout aménagement de peine. Ce qui fait que nos consultations sont envahies par des gens qui ne souffrent pas vraiment de troubles psychiatriques ou psychologiques, mais qui, pour faire plaisir aux magistrats, viennent nous demander des consultations. Donc, nous passons énormément de temps pour prendre en charge des gens qui n'en ont pas besoin et qui ne le souhaitent pas.
Mais pardonnez-moi, ensuite, petite précision, c'est-à-dire l'aménagement de peine, il va être accordé si la personne est en bonne santé psychiatrique, disons, en bonne santé psychique, ou au contraire, si on constate qu'elle a des problèmes et donc que la prison ne lui convient pas.
Non, alors ça c'est tout à fait exceptionnel qu'on considère que la prison ne convient pas pour des raisons psychiatriques et qu'on accorde un aménagement de peine. La grande majorité des cas, on va accorder un aménagement de peine, enfin les magistrats vont accorder cet aménagement de peine à condition que la personne se porte bien et avant tout qu'elle ait fait l'effort de se soigner, qu'elle soit ou non malade. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes viennent nous voir en disant « ma peine n'a pas été aménagée parce que je ne reçois pas des soins en prison, bien que cette personne n'ait pas de problème psychiatrique ».
Pascal Loué-Villaume, je voyais approuver ce que disait Cyril Canetti.
Alors, je crois que ça montre aussi, ça révèle bien que de toute façon, les services de soins en prison sont nettement insuffisants pour répondre à toutes les demandes. Parce qu'effectivement, comme disait effectivement Monsieur Canetti, il y a deux choses. Il y a les personnes atteintes de très graves pathologies mentales. Et puis, il y a toutes les personnes qui font l'objet de suivi, d'obligations de soins qui peuvent être déjà commencer d'ailleurs en prison. Et parce que ça, effectivement, ça a été ordonné par le juge, ou parce que ça va faire l'objet après de leur suivi à l'extérieur. Et effectivement, on sait qu'un détenu, quand il sort, c'est quand même mieux qu'il continue à être suivi. Et s'il y a besoin de soins à l'extérieur, il faut bien qu'il y ait à un moment donné une évaluation. Enfin, il faut qu'il y ait un lien entre ce qui se passe en prison et ce qui va se passer à l'extérieur. Mais tout ça, ça montre bien que de toute façon, actuellement, le nombre de personnels soignants en prison, que ça soit pour les pathologies mentales ou même pour tout ce qui est somatique, hein, est nettement insuffisant. Je vous donnerai un chiffre. À la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où il y a 4500 détenus, il y a 3 psychiatres à temps plein chaque jour pour assurer justement ces consultations. Donc vous voyez bien l'ampleur de la difficulté. Encore une fois, je pense que le problème, encore une fois, politique en France, c'est de dire la prison peut soigner. Or, c'est pas vrai, la prison, elle ne soigne pas. D'une part, c'est pas sa vocation. Et d'autre part, il faut pas non plus oublier qu'actuellement, on est dans une situation de surpopulation pénale. On a des taux d'incarcération inédits, puisqu'on est à près de 70 000 détenus actuellement, et qu'il manque à peu près 14 000 places en prison pour avoir ce qu'on appelle une détention normale, c'est-à-dire un encellulement individuel. Donc actuellement, on ne peut même pas assurer actuellement en prison la vraie mission qui est non seulement de punir, donc d'enfermer, mais également de réinsérer.
Sébastien Saïta, il faudrait davantage de personnel soignant et notamment de psychiatres en prison.
Bon, alors ça c'est certain parce qu'effectivement on a vraiment une pénurie de personnel, on a des files d'attente qui sont extrêmement longues, ça se compte parfois en mois hein, pour obtenir un rendez-vous avec un psychiatre. Donc je confirme effectivement la prison ne peut pas être un lieu de soins dans cette perspective. Mais après je voulais aussi rebondir sur ce que disait Monsieur Canetti sur effectivement le fait que le psychiatre ne peut-être ne peut peut-être pas soigner comme il l'entend en prison. C'est vrai que parce qu'il est sollicité, en fait, à la fois effectivement par la société, non pas pour soigner une souffrance, non pas pour effectuer un suivi psychothérapique ou traiter une schizophrénie, mais il est aussi mobilisé donc pour traiter la récidive. Là, on parle plus de suivi psychocriminologique, de prise en charge socio-thérapeutique. Et effectivement, on l'invite à venir traiter en fait le crime plus que traiter une souffrance, et ce ne sont pas ses missions initiales. Et c'est vrai qu'au sein de la détention aussi, on voit que les soignants sont perpétuellement sollicités par l'administration pénitentiaire et les surveillants pour tout un tas de tâches, et qu'ils ont du mal effectivement aussi à faire ce qu'ils estiment être l'essence de leur travail. Et d'autre part aussi, c'est vrai qu'ils ont du mal aussi à préserver une zone un petit peu d'autonomie, à maintenir aussi voilà, un espace de confidentialité. Donc c'est vrai que les détenus, en fait, ça confirme l'idée que la prison ne peut pas être un lieu de soins. Pour les détenus, le détenu n'a pas la même chance qu'un citoyen ordinaire d'avoir une consultation dans de bonnes conditions où le secret médical serait respecté, etc. Donc voilà, c'était pour. Et aussi, là, je m'appuie sur un travail d'une collègue, Camille Lancelevé, qui a donc qui vient de soutenir une thèse qui s'appelle Quand la prison prend soin, et qui a aussi fait des observations en hôpital psychiatrique. Ce sont aussi des conditions difficiles dans la mesure où les relations surveillants-soignants sont assez conflictuelles et que les surveillants ne comprennent pas toujours le sens du secret médical, etc. Donc on a aussi des situations de tension qui rendent aussi la prise en charge difficile et qui font que la prison, on ne le dira jamais assez, n'est pas un lieu de soins. Effectivement.
Alors justement, sur ces relations de tension entre personnel de soins et surveillants, et sur cette pénurie peut-être de médecins, et notamment, puisque c'est notre sujet ce soir, de psychiatres dans les prisons, je voudrais qu'on évoque, Cyril Canetti, ce rapport dont je parlais en début d'émission, rendu public par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté en juillet dernier, suite à une mission d'observation alors qui datait d'il y a deux ans et à laquelle vous avez participé au centre pénitentiaire de Château-Thierry dans l'Aisne. J'ai relevé deux phrases dans le rapport, notamment celle-ci. La très grande majorité donc des personnes hébergées étaient atteintes d'états psychotiques graves et persistants, et surtout, il y est noté un exercice de la psychiatrie plus coercitif que soignant.
Oui, alors là, j'allais justement revenir sur ce que vous avez dit juste avant, à savoir s'il fallait augmenter les effectifs, puisque c'est ce qui est préconisé souvent quand on parle de Château-Thierry, en disant qu'il y a un manque de personnel soignant, manque de médecins, manque de personnel infirmier. Je fais partie de ceux qui pensent qu'augmenter les places de prison ne résoudra pas le problème de la surpopulation, puisque on le sait par expérience, à chaque fois qu'on augmente le nombre de places, on incarcère davantage. Je crains malheureusement que si on augmente le nombre de psychiatres en prison, on ne renforce encore le mouvement actuel qui consiste à trouver une place pour les malades mentaux en prison. Concernant le rapport de Château-Thierry, je ne me positionnerai pas en tant que contrôleur ayant participé à la mission, puisque je ne suis pas en droit d'en parler comme ça, mais simplement comme quelqu'un qui a lu ce rapport. Il a été préconisé qu'il y ait davantage de soignants, puisqu'il y a un taux de psychiatres qui est faible dans cet établissement. Et je ne vais pas dans ce sens. Moi, je pense qu'il faut purement et simplement fermer Château-Thierry. Pourquoi ? Parce que on y rencontre, vous le disiez à l'instant, entre 80 et 80% de personnes qui sont très lourdement malades, pour certaines qui sont incarcérées depuis des années et des années. Ce rapport attaque davantage les dysfonctionnements médicaux que les dysfonctionnements pénitentiaires, puisque à la lecture du rapport, on peut voir qu'il y a un savoir-faire pénitentiaire. Et c'est comme ça que se félicite l'ensemble des personnes qui visitent l'établissement en se disant « il y a un savoir-faire, on ne peut pas se passer de cet établissement ». Je pense au contraire que les personnes qui sont incarcérées là-bas, qui sont grandement malades, souffrent à la fois de l'incarcération et de leur pathologie. Elles sont envoyées dans le seul établissement français dont on pense qu'il sait faire avec cette population, et donc elles sont privées de tous les contacts avec leur famille, leur entourage, etc. Et il y a un seul établissement. S'il y a un savoir-faire pénitentiaire dans cet établissement, pourquoi ne pas le fermer puisqu'il y a des conditions qui y sont indignes, et exporter ce savoir-faire pénitentiaire qui a été constaté et que le rapport souligne. Il n'y a pas que des choses négatives qui ont été dites. Les surveillants pénitentiaires ont des contacts de qualité avec les personnes qui sont incarcérées à Château-Thierry, et moi j'invite l'administration pénitentiaire à s'appuyer sur cette expérience pour développer ce savoir-faire et le développer dans toute la France plutôt que de rassembler l'ensemble des malades mentaux dans cet établissement où ils n'ont pas leur place.
Pascal Loé-Villaume,
Oui, alors je ne connais pas particulièrement la situation de Château-Thierry, mais ce que je souhaite vraiment, sur lequel je veux vraiment insister, c'est de dire que le rôle d'un surveillant, qui est actuellement extrêmement difficile, encore une fois rendu extrêmement difficile par ces conditions de surpopulation, par des bâtiments encore une fois qui restent souvent dégradés aussi, c'est d'être confronté quotidiennement à la violence des détenus, à une violence souvent, comme on vient de le voir, à travers des pathologies mentales qui est totalement non maîtrisée, hein, qui n'est pas responsable de la part de ces détenus. Et c'est vrai qu'on ne peut pas demander aux surveillants d'être des personnels soignants. Il ne faut pas confondre les missions. Dans les missions du surveillant, il y a les missions effectivement de sécurisation et il y a les missions de réinsertion. Et actuellement, encore une fois, ces deux missions-là, la mission de sécurisation, elle est faite, mais la mission de réinsertion, elle n'est absolument pas faite. Donc moi, je voudrais revenir sur les propos que récemment Mme Hazan a tenus en disant justement à la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, où elle disait, elle évalue à 25 ou 30% même de malades atteints de graves pathologies psychiatriques. Et ce qu'elle évoquait, c'était effectivement de sortir ces personnes très gravement atteintes, encore une fois, des lieux de détention, des prisons. Ça pourrait être une solution peut-être pour résoudre actuellement les problématiques effectivement de surpopulation carcérale. C'est peut-être effectivement une solution sur laquelle il faut envisager sérieusement de se pencher. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas demander à la prison de soigner.
Alors il y a peut-être un lieu justement qui permet ce compromis-là, c'est-à-dire de sortir des personnes de prison tout en les maintenant quand même dans un environnement sécurisé, ce sont les UHSA. C'est quelque chose qu'on a évoqué sans les nommer en début d'émission. Unité hospitalière spécialement aménagée, ça existe depuis 2010, je crois qu'il y en a 7 aujourd'hui en France. Cyril Canetti et ensuite Sébastien Saïta, est-ce que vous considérez que c'est un bon compromis qui permet à la fois de soigner et de punir, ou de punir et de soigner? Cyril Canetti.
Je fais partie de ceux, on va croire que je suis hostile à tout, mais qui n'étaient pas favorables au développement de ces unités. Pour être clair, il s'agit d'un service psychiatrique avec une garde pénitentiaire périphérique, et les personnes qui sont soignées dans ces établissements, où il y a sans doute des soins de qualité, sont toujours sous écrou et sont toujours donc considérées comme incarcérées.
Voilà, ce sont des unités qui sont en dehors de la prison, hein, qui sont dans un cadre
qui sont dans un cadre hospitalier avec une garde périphérique qui est pénitentiaire. Mais à tel point que quand elles ont été développées, nous avions été entendus par une commission des lois et un sénateur avait posé la question, mais pourquoi maintenir l'irresponsabilité pénale psychiatrique puisque maintenant nous avons des hôpitaux prisons où nous pouvons à la fois punir et soigner. Donc vous voyez, c'est ce que disait Saïta à l'instant, c'est qu'il faut voir ça au long cours et malheureusement l'évolution est le retour du malade mental dans la prison. Ce qui était un mouvement qu'on a tenté de contrer au cours des deux derniers siècles. Et je crois qu'il faut se donner les moyens, encore une fois, si on considère que les malades mentaux sont des personnes dangereuses, ce qui est exceptionnellement le cas, il faut se donner les moyens de les garder dans une structure sanitaire, exclusivement sanitaire, et non pas avec une garde périphérique qui considère donc que ce sont des gens qui sont donc coupables d'avoir commis quelque chose, alors que la maladie mentale devrait les extraire de leur culpabilité. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur ce coup-là.
Ça me semble absolument clair, en tout cas pour moi. Sébastien Saïta, vous partagez l'analyse de Cyril Canetti sur ces UHSA, unités hospitalières spécialement aménagées?
Oui, complètement. Les UHSA ne résolvent pas le problème de fond qui est effectivement qu'on envoie des personnes atteintes de troubles mentaux en prison, des personnes qui n'ont pas leur place à cet endroit. Et effectivement, il ne fait que résoudre temporairement le problème, en fait. On est envoyé en UHSA, mais on retourne en détention après. Donc ce sont des séjours d'une certaine durée qui sont censés gérer des crises. Mais après, voilà, la personne va repartir et va évoluer dans les mêmes conditions qu'avant. Donc effectivement, ce ne sont pas des solutions complètement satisfaisantes. Et voilà, ce sont aussi des choses qui coûtent très cher, les UHSA. On peut estimer aussi que tout l'argent qui a été mis là aurait pu être mis ailleurs, effectivement, comme le dit M. Canetti, dans le sanitaire, ou dans des mesures peut-être alternatives, dont on va peut-être parler, mais des alternatives à l'incarcération, aussi dans le champ hospitalier, des alternatives à l'hospitalisation complète et sous contrainte, etc. Donc non, effectivement, voilà, je suis tout à fait d'accord avec M. Canetti, et c'est la position de l'OIP, les UHSA ne sont pas une solution satisfaisante. Elles permettent effectivement d'hospitaliser dans des conditions un peu moins mauvaises qu'avant. on va dire ça.
Pascal Loé-Villaume, on est presque au terme de l'émission. Pour revenir sur la fonction des experts psychiatres lorsqu'il y a des procès, donc qui vont évaluer quel était l'état du prévenu au moment de la commission des faits, est-ce que il y a aussi une sensibilisation qui est faite auprès des magistrats sur l'impact que pourra avoir la détention sur les personnes? Est-ce que ça peut rentrer dans l'appréciation et dans l'ampleur de la peine qui va être prononcée? Ou bien est-ce qu'on se tient seulement à ce qu'était l'état du prévenu au moment où il a commis les faits qui lui sont reprochés?
Non, dans les questions qui sont posées aux experts, il y a évidemment des questions sur la responsabilité, l'état effectivement mental au moment des faits, mais il y a aussi des questions, je dirais, sur l'avenir. Le pari sur l'avenir, effectivement, qui est quand même essentiel, parce que le juge, quand il prononce une décision, il doit décider effectivement si la personne était ou pas responsable au moment des faits, et si c'est le cas, évidemment, il doit prononcer une peine, et comme je vous disais tout à l'heure, il doit bien sûr tenir compte de ce que les experts vont lui donner comme élément.
Mais par exemple, la fragilité psychique et le fait de se dire, cette personne-là, si elle va en prison, elle va en ressortir encore beaucoup plus abîmée qu'elle ne l'était en entrant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être entendu quand
parmi,
on est du côté de l'administration?
Parmi les questions qui sont posées aux experts, il y a la question de la réadaptabilité. Donc, être réadaptable, c'est justement pouvoir... Est-ce qu'une peine, et quel type de peine pourrait effectivement permettre à la personne de ne pas récidiver? Parce qu'en fait, c'est ça, essentiellement, la question qui est importante. Oui, bien sûr, ça fait partie des questions qui sont posées aux experts, donc sur lesquelles on a des données. Après, il y a aussi des données qui seront prises en compte au moment où la personne sera incarcérée. Là, elle fera l'objet à nouveau de nouveaux examens, y compris par des médecins psychiatres. Et là, il y aura une nouvelle évaluation qui sera faite.
Cyril Canetti, vous qui tenez une consultation pour sortant de prison à Paris, sur cette réadaptabilité, c'est quelque chose qui, là aussi, peut-être mériterait d'être davantage pris en compte au moment de la décision?
Oui, ça c'est évident, mais je voudrais revenir sur les propos que vous avez tenus tout à fait au début à propos des propos de Monsieur Collomb et sur la question des effectifs, puisque je disais que je ne souhaite peut-être pas avoir beaucoup d'effectifs de peur de voir augmenter la population des malades. En revanche, si on considère que la prison crée d'une part des maladies mentales, mais d'autre part du désespoir et de la colère, et que c'est peut-être ça le lit de la radicalisation dont on parle tant en prison, puisque moi, j'ai vu souvent des jeunes patients tellement en désespoir par rapport à leur situation à l'extérieur et à l'intérieur. Je pense que si on veut donner des effectifs aux soignants en prison, et là je fais la publicité pour les équipes qui y travaillent, c'est pour faire de la prévention, c'est pour accompagner justement ces personnes qui sont pas forcément atteintes de troubles mentaux, mais qui ont des troubles de la personnalité et qui sont en situation de très grande précarité psychique, en très grande fragilité et vulnérabilité. Et si on veut se donner les moyens de les accompagner pendant leur détention pour améliorer à la fois le parcours de la détention et la sortie, on fera certainement bien plus qu'en suivant les recommandations de Monsieur Collomb concernant le travail entre psychiatre et ministre de l'Intérieur, enfin l'Intérieur, force de police.
Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Cyril Canetti, j'en profite également pour remercier nos camarades de France Bleu Azur à Nice qui assuraient le duplex. Merci à vous, Pascal Loé-Villaume, et à Sébastien Saeta, donc porte-parole de l'OIP. L'OIP qui publie chaque année son rapport.
Non, pas tous les ans.
C'est pas tous les ans. Le dernier en date, enfin on peut aller sur le site, maintenant
voilà,
on a mis le lien
ouais.
Sur notre site franceculture.fr. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Lucas Vaillant.